Les amis, quelques petites flash news juste avant que j'introduise également notre orateur d'aujourd'hui. Nous aurons le 23 juin des baptêmes. Okay. Ça va être la fête, ça va être extraordinaire. Priez. Alors, dans l'idée, il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais Jonathan, où est-ce que sera le lieu ?» On n'a pas encore défini le lieu, on a plusieurs projections. Soit on le fait ici, soit on le fait au bord d'un lac. Mais vu qu'en ce moment, c'est très pluvieux, il y a des gens, ça tente moyen. Mais moi, j'ai vu en Russie des photos de baptême où ils cassaient la glace et ils plongeaient les baptisés. Ça, c'était des vrais baptêmes. Ça, c'est pas comme nous, tu vois, il y a deux, trois bien pris. Fafa, il veut pas se baigner. Non, je te parle des vrais baptêmes, tu vois. Donc, voilà, juste, on va faire la fête. Ça va être une journée extraordinaire parce que quand on fait des baptêmes, ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent un engagement de suivre le roi des rois, le maître et le seigneur des seigneurs. Et on veut se joindre, on veut inviter la famille. Donc il y a plein de bonnes choses. Aussi également, JD, arrête-moi si je me trompe, mais normalement cet après-midi, il y a encore les baptisés, tous les préposés au baptême. Il va y avoir, vous continuez d'avoir votre session de formation, de préparation pour les baptêmes. Voilà. Et juste aussi, les amis, je ne veux pas trop en dévoiler maintenant, mais priez pour nous, j'ai besoin de vos prières. On a besoin, tout le leadership de l'Église, parce qu'aujourd'hui, on est en plein questionnement par rapport au lieu. On aimerait accueillir plus de monde et on commence à visiter des locaux avec les frères et sœurs catholiques qui nous ont ouvert leurs portes, etc. Donc, on a plusieurs visites et on ne veut pas se tromper dans ce qu'on doit faire. D'accord ? Du coup, je vous invite à prier pour nous. Et également, en terminant, cette Église a un site internet qui s'appelle Église... Non, pas Connect. Église CG, comme Connect Grenoble, églisecg.fr. Je vous invite, toutes les prédications vont être disponibles dessus. Il y a pas mal de flash news, etc. Mais aussi, il y a des gens qui sont autour de nous, à Grenoble, qui ne nous connaissent pas, des gens qui sont sans église et qui aimeraient bien avoir une église. Si c'est votre cas, soyez les bienvenus. Mais si vous connaissez des gens qui n'ont pas d'église, juste donnez le site internet Église Connect Grenoble. Tu peux venir nous visiter. Et également, à la fin de cette réunion, il y a plusieurs personnes qui viennent parfois me voir et me disent « Écoutez, j'aimerais être au courant de toute l'activité de l'église. » On a un groupe WhatsApp. Vous pouvez vous inscrire sur internet, mais également en venant nous voir, le leadership, etc., pour qu'on vous rajoute et que vous ayez un supplément. C'est gratuit, c'est non payant d'être inscrit sur le groupe WhatsApp et de recevoir des news. D'accord ? Ça va, Grenoble ? Bien, les amis, sans plus tarder, c'est une joie pour moi d'accueillir et de recevoir notre orateur invité qui s'appelle Nathan Ferrier, qui est... Ferrer, c'est ce que j'ai dit. Vous avez entendu Ferrier ? Vous vous êtes trompé. Ferrer, en fait, Nathan est un pasteur à Montpellier, juste à côté de Valence. Et il y a 10 jours de cela, maintenant, il y avait une conférence. C'était juste extraordinaire parce qu'il y avait 400 personnes qui étaient là dans des gradins. C'est fou de voir comment Dieu a agi. Moi-même, je me suis senti bouleversé, touché par ce que Nathan fait. Et en fait, ce qui était complètement hallucinant de ce gars, c'est qu'il a dit « on a fait tout ça et on l'a fait gratuitement à des gens ». Alors, du coup, on a fait des offrandes et finalement, on est rentré dans le budget. Mais c'était extraordinaire de voir la foi, de sauter dans le vide. Juste ça, Nathan, tu m'as défié et impressionné là-dessus. Donc, les gens étaient touchés, ils font un super travail. Il va nous en parler peut-être un petit peu plus. Ils font un super travail là-bas. Et en fait, ce qui est touchant aussi, c'est de voir, moi, ça m'a troublé, c'est de voir à quel point, au niveau de notre ADN, au niveau de notre culture d'église, au niveau de notre cœur, on était pareil. Et j'étais touché et je disais, Nathan, il faut absolument que tu viennes à Connect Grenoble. On veut te recevoir, les amis, Église Connect Grenoble. Est-ce qu'on peut accueillir, comme il se doit, un homme de Dieu qu'on aime beaucoup, Nathan. Merci.
Bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous. Donc c'est Nathan Ferrer. J'ai l'impression d'avoir un démarcheur au téléphone, il m'appelle Ferrier. Non, c'est Ferrer. En tout cas, ouais, c'est vraiment une joie. Et je rebondis sur ce que disait Jonathan, c'est que, en fait, on est des enfants de Dieu. Et on est animés du même esprit. Et en fait, on peut être différent, on peut parler une autre langue, mais quand on se connecte et qu'on est animé par le même esprit, on a l'impression d'être des frères et de se connaître depuis longtemps. Et moi, il y a un verset qui m'a toujours touché. Vous savez, quand, dans le livre des Actes, il nous est dit qu'il y avait des chrétiens qui t'ajoutaient chaque jour à l'église. Et il nous est dit qu'ils étaient un seul même cœur et une seule même âme. Et en fait, quand on connecte dans l'esprit, on devient un. Vous savez, comme avec notre conjoint, quand on prie avec notre conjoint, ça vient nous unifier, on devient vraiment très proche. Et bien, de la même manière, on ne se connaît pas, mais quand on passe des temps dans la présence de Dieu ensemble, on devient un. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit, il se passe toujours des choses. En tout cas, j'aimerais vous inviter, on va prier avant de commencer. Seigneur, on te remercie parce que tu es là au milieu de nous. On est comme les disciples sur la montagne et on dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici parce que tu es là avec nous, Seigneur. Seigneur, vers qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tes paroles sont esprit et vie. Et nous avons faim et nous avons soif de toi, Seigneur. Si on est là, c'est parce qu'on t'aime, Jésus. C'est parce qu'on veut te connaître plus. C'est parce qu'on veut marcher de progrès en progrès. Et vraiment, je te prie, alors qu'on va ouvrir ta parole, que vraiment ce soit ta bouche qui s'ouvre pour nous parler. Je te prie vraiment que tu viennes vraiment ouvrir nos cœurs, que tu viennes ouvrir nos intelligences. Comme tu as fait avec les disciples, viens souffler sur nous pour que nos intelligences soient ouvertes pour recevoir ta parole de vie, ta semence de vie. Et on veut vivre la semence, Seigneur, comme dans ton royaume. Tu dis que ce n'est pas 1+1, mais c'est la multiplication. Et on veut vivre cette multiplication dans nos vies. On veut être ces témoins qui marchent en ton nom, Seigneur. On veut être remplis de toi. On veut être des hommes et des femmes qui marchons par l'Esprit de Dieu, pas par l'Esprit de ce monde. Et je te prie que ce matin encore, tu nous équipes, tu nous fasses réfléchir, tu nous fasses avancer avec toi. Et tout ça pour une chose, Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom. C'est tant d'enseignements, c'est à propos de toi. C'est à propos de nos vies qui sont transformées pour te rendre toujours un peu plus gloire. Alors fais-le ce matin, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ok. Alors pour commencer, j'aimerais faire un petit temps un peu interactif et j'aimerais que vous imaginiez quelque chose et j'aimerais que vous imaginiez une situation qui va être très plaisante. Ok, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ou pas ? Ok. J'aimerais que vous imaginiez qu'il y a une banque qui a ouvert pour chacun d'entre vous un compte. Et sur ce compte, chaque jour, la banque vous place 86 400 euros. Tous les jours. Attendez. Cependant, il y a deux règles. La première règle, écoutez bien, c'est que tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée vous est enlevé le soir. Et vous ne pouvez pas le mettre sur un autre compte. Et chaque fin de journée, l'argent disparaît, le nouveau jour vient, et il y a à nouveau 86 400 euros qui sont déposés sur votre compte. Ça, c'est la première règle. Maintenant, la deuxième règle, elle est un peu plus sournoise, c'est que la banque peut interrompre définitivement ce crédit sans préavis et fermer ce compte quand elle le souhaite. Ma question, c'est qu'est-ce que vous feriez ? Allez, un peu de participation là. Tous les jours, 86 400 euros. À la fin de la journée, ils vous sont enlevés. Vous n'avez pas le droit de les transférer et ça se renouvelle tous les jours. De quoi ? Ah ouais, tu donnes aux pauvres. Pas mal, pas mal. Personne n'a envie de dépenser un peu d'argent là ? Ah, quand même. De l'immobilier, on dépense. Moi, j'ai essayé de réfléchir à ça. Pour moi, il y a trois possibilités. Soit vous dépensez chaque euro à vous faire plaisir, et puis probablement voilà, vous aidez les pauvres, vous aidez un peu les gens dans le besoin. La deuxième possibilité, c'est que vous dépensez que ce qui est nécessaire pour vivre, et puis vous laissez dormir le reste. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la journée, tout ce que vous n'avez pas dépensé est enlevé. C'est la règle numéro une. Et la troisième possibilité, c'est de faire un peu comme dans 1 Corinthiens 15, 32, tout dépenser, mener la grande vie, mangeons, buvons, parce que demain, nous mourrons. Mais mes amis, cette banque imaginaire, elle existe en réalité et on en est tous les clients. Elle s'appelle la banque du temps. Et le banquier, c'est Dieu. Et chaque jour, il crédite sur votre compte 86 400 secondes de vie pour la journée. Et le soir, il n'y a pas de report. Et ce qui n'a pas été vécu aujourd'hui est perdu et les secondes d'hier sont passées et elles ne reviendront plus jamais. Et chaque matin, ce processus, il recommence. 86 400 secondes qui sont créditées sur le compte de notre vie avec cette règle incontournable, c'est que la banque, elle peut fermer notre compte à n'importe quel moment. Et ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos 86 400 secondes ? Ça en fait des secondes, hein ? Tous les jours. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais on vit dans une société aujourd'hui où on court sans arrêt, sans arrêt, après le temps. Malgré tout un tas d'inventions qui ont été données pour qu'on gagne du temps. Mais pour autant, malgré ces inventions, moi j'ai l'impression qu'on a moins le temps que les gens qui, avant, n'avaient pas ces inventions, avaient plus le temps. Et pour autant, c'est censé nous aider à avoir plus de temps. Et tout est étudié sur mesure pour cultiver la précipitation chez nous. Et on veut tout, tout de suite, sans aucune attente, que tout arrive très, 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 très vite. Mais le problème, c'est que cette manière de voir les choses et de vivre nos 86 400 secondes n'a rien de commun avec la manière de vivre et de voir le temps avec Dieu. Et ça n'a rien de commun avec la manière dont on est appelé à employer notre temps. Et c'est de ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est d'attendre le temps de Dieu avec patience. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un verset dans le Cantique des Cantiques. On ne l'ouvre pas souvent celui-là, alors je me suis dit que ce serait une bonne chose. Au chapitre 2 et des versets 10 à 13. Ça nous dit ceci. « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé et elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes, le figuier embaume par ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, ma belle, et viens. On voit dans ce passage ainsi que beaucoup d'autres que Dieu il ne travaille pas dans un temps qui est linéaire, mais avec des saisons particulières de nos vies plus que des années. Et chaque saison va déterminer une attitude, une manière d'agir et un environnement favorable pour que la volonté de Dieu elle, s'accomplisse ou pas. Et on voit dans ce passage que parce que l'hiver est passé, eh bien la pluie s'en est allée. Et il y a maintenant le soleil, et ça change l'environnement d'hiver pour faire apparaître, il nous a dit, la verdure, des fleurs, des animaux, des oiseaux, ce qui amène une nouvelle attitude, celle du chant et de la réjouissance. Et de la même manière, dans notre vie, chaque saison va amener des conséquences sur notre environnement et ça va placer devant nous un choix dans notre attitude, dans la manière de nous comporter. Et pour chacun d'entre nous ici, Dieu, il a un plan. Et ce plan, il faut bien le réaliser, ce plan, il est modulé en fonction de notre obéissance ou de notre désobéissance. Chacun d'entre nous, on a reçu quelque chose de la part de Dieu et notre attitude va définir si ce plan va pouvoir se réaliser ou pas. Et à cause de cela, nos vies, elles ne peuvent pas être vécues comme on a envie. Mais elles doivent être calquées sur le temps parfait et particulier dans lequel Dieu veut nous voir entrer dans ses plans. Et le temps de Dieu pour votre vie, il n'est pas le même que le temps de la personne qui est à côté de vous. Dieu a un temps particulier. On n'a pas à se comparer les uns aux autres, mais on doit avancer vis-à-vis de ce que Dieu a prononcé sur nos vies. Et Dieu a assigné à chacun une destinée. Dieu a assigné à chacun des dons. Dieu a assigné à chacun une vie, une portion de jours qui n'est pas la même pour chacun. Et parfois, on se compare, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas à quel moment la banque du temps va fermer notre compte. On ne sait pas à quel moment Dieu va dire « maintenant, c'est terminé ». Et en fonction de ça, Dieu, il sait, lui, la portion de jour qu'il nous a donnée. Il sait les plans et les choses qu'il a formées sur chacun d'entre nous. Et face à cela, on peut soit accepter son plan, soit accepter son temps à lui, soit le rejeter. Mais sachez une chose, rejeter le temps de Dieu pour votre vie, c'est ni plus ni moins que rejeter le meilleur pour votre vie. Parce que le temps de Dieu, pour nous, il est parfait. Et il nous arrive tellement souvent de vivre de nous lever le matin, d'aller dans nos vies, dans nos quotidiens, sans réaliser que Dieu a un plan pour notre vie. Vous savez, c'est un truc, on dit tout le temps, Dieu a une destinée, Dieu a un plan pour toi. Tout le monde sait ça, c'est les messages vachement à la mode, ça. Dieu a une destinée, quelque chose de spécial. Des fois, on entend le mot particulier. Dieu a un appel particulier, une onction particulière. On a tout un tas de choses qui nous sont données comme ça. Mais est-ce que quand on se lève le matin, malgré la vérité que nous savons que Dieu a un plan pour nous, on y pense ? Est-ce que lorsque on se lève le matin, on réalise que Dieu a un plan et qu'on est appelé à faire des choses particulières dans son temps à lui, dans ce que lui a prévu ? On vit selon notre agenda sans vraiment nous questionner. Et moi, j'aimerais nous questionner ce matin par rapport à ça. C'est où est Dieu dans tout cela ? Quelle place a-t-il ? Quel est son plan, son projet pour ma vie ? Quand c'est la dernière fois que vous êtes posé cette question, Seigneur, vis-à-vis de ce que toi t'as prévu dans ma vie, je suis à quelle étape ? J'en suis où ? Qu'est-ce que tu attends de moi là ? Aujourd'hui, on est lundi, je vais aller au bureau. Dans ton plan, qu'est-ce que tu m'appelles à faire aujourd'hui ? Parce que vous savez, parfois, notre première rencontre avec Dieu dans la journée commence à la première occasion où on a un problème qui nécessite son assistance. Et le temps passe, le soir arrive, et le temps de connaître son agenda, ben c'est déjà passé. Et finalement, on se rend compte que bien des journées passent sans qu'on rentre dans ce que Dieu a prévu. En tant que chrétien, moi je crois vraiment, et je me parle vraiment à moi dans cela, mais on a besoin d'être sevré. On a besoin d'être sevré de cette précipitation. On a besoin d'être sevré de ces vies à 1000 à l'heure, parce que ça étouffe l'agenda de Dieu pour nos vies. Et Dieu, il a un plan, il a un temps, il a quelque chose de particulier pour nous. Dans le psaume 27, au verset 14, il nous est dit « Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Et ce psaume, c'est David qui l'a écrit, et moi, de ce que j'en comprends, c'est qu'il nous met en garde contre une attitude de passer d'une chose à une autre sans prendre le temps de consulter Dieu et d'attendre son timing. Mais dans notre vie, il est inévitable qu'il y ait des saisons, qu'il y ait des opportunités, qu'il y ait des problèmes qui vont nécessiter de nous arrêter et de consulter Dieu pour avoir une direction, pour marcher à son rythme et pas le nôtre. Et si certains désirs, certaines vocations et opportunités n'arrivent pas, parfois dans nos vies, c'est parce qu'il y a une raison. Et en fait, on aimerait que les choses arrivent tout de suite, on aimerait qu'elles arrivent comme nous on veut, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de peut-être qu'elles n'arrivent pas pour la simple et bonne raison que Dieu veut qu'elles n'arrivent pas maintenant? J'aimerais vous rappeler un petit peu, et j'ai bien aimé, ça a été dit tout à l'heure, l'histoire de David. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un jour, il y a Samuel qui est venu voir David et qui l'a oint pour devenir roi d'Israël. Je ne sais pas, est-ce que vous savez à quel âge avait David à ce moment-là? Il avait 16 ans. C'était un jeune homme. Il était jeune. Et ce jour-là, au travers de Samuel, Dieu a prononcé un appel, Dieu a prononcé une prophétie sur sa vie, une vocation. Sauf que pendant les 14 années suivantes, David allait fuir l'épée de Saül. David allait être dans des problématiques de vie qui vont l'emmener dans des situations terribles. Et le timing de Dieu, il était parfait pour David. C'était le bon timing de Dieu. Mais pendant ces 14 années, qu'est-ce que David a dû ressentir à votre avis? Qu'est-ce qu'il a dû penser? Parce qu'il avait été oint, il y a une parole prononcée de Dieu qui avait été donnée. Et pour autant, pendant 14 années, il n'a fait que galérer du matin au soir. Il avait servi Saül de tout son cœur et tout ce qu'il a récolté, c'est la vengeance et c'est la méchanceté. Imaginez les questions de son cœur lorsqu'il fuyait dans le désert pour se cacher dans la solitude, dans la difficulté, dans la précarité qui était bien loin d'être la situation d'un roi. Mais on voit que lorsque le temps fut venu, il est devenu roi d'Israël, Jérusalem est devenue la cité de David et il a été élevé devant tous. Sauf que ça, c'est arrivé à un moment précis. Et Dieu avait un plan pour David. Et ce plan, il était parfait. Il exécutait ce plan, mais pas sur le calendrier de quelqu'un d'autre. Pas sur le calendrier de David, pas sur le calendrier de Saül, mais sur son calendrier. Et il y en a d'autres comme ça. Il y a Joseph, qui a passé 13 années en prison pour un truc qu'il n'avait pas fait. Il y a Moïse, qui a dû attendre 40 ans que Dieu vienne bien crucifier sa chair pour qu'il soit renouvelé dans sa manière de voir les choses et qu'il puisse exécuter le plan de Dieu selon vraiment ce que Dieu avait prévu. Et on a aussi Jésus. Jésus, bien qu'il fût parfait, il nous est dit, a dû croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes avant de commencer la mission confiée par son Père. Et nous, on vit nos vies en pensant qu'en fait, on peut échapper à ça. On vit nos vies en pensant qu'on peut prendre des raccourcis alors que Christ lui-même a dû emprunter ce chemin de patience. Ce chemin où il a été formé, ce chemin où Dieu a travaillé son cœur. Et Dieu, il a un plan pour notre vie, il a une saison favorable, mais ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui. Dieu, il a des projets pour vous, il a des bonnes choses. Éphésiens 2.10 nous dit qu'avant la fondation du monde, avant que le monde soit créé, Dieu a pris le temps de se poser et de dessiner les traits de vos visages, vos cheveux, tout, 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 et de réfléchir à une destinée pour vous, avant la fondation du monde. Ça, c'était prévu, mais ça ne veut pas dire que ça doit arriver maintenant. Et ça ne veut pas dire que ça doit arriver quand nous, on en a envie. Et on peut posséder ces choses seulement lorsque Dieu nous a préparés à les recevoir. Et qu'a fait Dieu avec David pendant toutes ces années? Eh bien, il l'a préparé. Il lui a appris à souffrir. Il lui a appris à pardonner. Il lui a appris à aimer. Il lui a appris à patienter. Il lui a appris à être sage et être dépendant de lui. Il lui a appris à respecter et bénir l'autorité, même quand cette autorité, elle est injuste. Et à deux occasions, il nous est dit que David, il aurait pu tuer Saül. Il aurait pu accéder au trône, mais il savait que ce n'était pas le moment choisi par Dieu. Et là encore, si souvent, on fait des erreurs dans nos vies parce qu'on ne s'arrête pas pour considérer quelle est la volonté de notre Père Céleste. On tue nos Saül pour accélérer les temps que nous ne voulons pas endurer et on accède dans les plans de Dieu comme des imposteurs. Mais quand on accélère les temps de Dieu et qu'on rentre dans les plans de Dieu comme des imposteurs, on ne peut pas s'attendre à ce qui est la bénédiction. Parce que le Seigneur, il ne peut pas nous suivre sur le chemin de la désobéissance. Vous savez, la Bible a dit que Jésus, il est avec nous tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Mais si on marche dans la désobéissance, si on n'a que faire de la volonté de Dieu, si on méprise les recommandations de Dieu pour nos vies, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu vienne nous bénir. Et David, il savait cela. Il savait que s'il précipitait le temps, en sortant du temps de Dieu, il ne serait pas béni. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que peut-être que vous vivez des temps qui sont des temps de patience en ce moment dans vos vies, des temps de souffrance, des temps de deuil, des temps de solitude, des temps de désespoir. Mais sachez une chose, Dieu va accomplir quelque chose dans votre vie au travers de cela. Vous savez, on a un Dieu qui peut utiliser les circonstances les plus pourries de nos vies pour en faire quelque chose de bon. Ça nous est dit dans Romains 8, 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Derrière cette expression, toute chose, il y a vraiment toute chose. Il y a les bonnes, il y a les mauvaises, il y a les joies, il y a les peines, il y a les circonstances favorables et il y a les circonstances défavorables. Et pourtant, par la puissance de Dieu, pour une raison qu'on n'arrive pas à comprendre ni même contempler, chacune de ces choses-là participe à son projet pour nous. Toute la misère par laquelle vous pouvez passer aujourd'hui dans vos vies, d'une manière ou d'une autre, Dieu va s'en servir pour que son bon plan, son bon projet pour vous puisse venir à la vie. Il utilise chacune des circonstances de nos vies. Il se sert de toutes choses pour travailler nos cœurs et pour nous donner les caractéristiques et les qualités qui veut que nous ayons pour accomplir le plan que lui a prévu. Et il peut utiliser ces choses-là pour nous former et pour nous préparer. Et pendant ces 14 années, maintes fois, David a dû dire « Mais moi, j'ai été loin. J'ai été loin pour être roi. Comment est-ce que c'est possible que je ne sois pas roi ?» Et l'attente du Seigneur, on le voit au travers de la vie de David et de bien des hommes et des femmes de Dieu, mais l'attente du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Attendre Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile, mais lui seul sait quand on est prêt. Et aujourd'hui, on n'est plus habitué à attendre. Moi, je suis effaré. Alors bon, je ne suis pas très vieux, hein, mais j'ai déjà vu l'évolution. Moi, je me souviens quand on était gamin, par exemple, qu'on allait chez le médecin, on s'asseyait sur une chaise et on attendait. Mais des fois, on attendait longtemps, mais on ne bronchait pas. Et aujourd'hui, on voit cette nouvelle génération où il faut sans arrêt qu'on soit occupé, qu'on regarde, qu'on soit sollicité et tout ça. Et en fait, la société amène une manière de vivre l'attente qui est à l'inverse total de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit dépouillé de cette manière dont on gère l'attente, dont on vit l'attente, parce que l'attente dans la Bible, elle n'a rien à voir avec cela. Alors comment est-ce qu'on s'attend à Dieu ? Comment est-ce qu'on attend le timing de Dieu ? Attendre Dieu, c'est pas rien faire. C'est en quelque sorte une espèce d'immobilité active. C'est-à-dire que je fais ce que Dieu m'a appelé à faire jusqu'à présent, et en même temps, j'attends la prochaine étape. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'équilibre, c'est-à-dire ne pas rien faire, et en même temps, ne pas devancer Dieu. Parce qu'il y a tellement de personnes, et ô combien j'en vois, qui souffrent à cause de cela, en particulier de conséquences qu'il n'aurait jamais dû arriver si elles avaient attendu le Seigneur dans leur projet pour elles. L'un des premiers domaines les plus destructeurs, c'est le mariage. Se mettre en couple avec quelqu'un. Les gens qui veulent et qui ne supportent pas la solitude, qui veulent être avec quelqu'un, qui précipitent les choses, qui accélèrent les choses parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'attendre. Des gens qui rentrent dans le ministère trop tôt, qui ne sont pas préparés. Moi, je travaille dans l'immobilier aussi. Des gens qui achètent des biens immobiliers au mauvais moment, parce qu'en fait, ils ont absolument envie d'avoir un bien, et ils revoient leurs besoins et leurs expectatives à la baisse pour avoir ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont peur de passer à côté. Dans les études, dans le travail, mais il faut qu'on comprenne que l'heure de Dieu, si je puis dire ainsi, l'heure de Dieu, c'est l'heure de la maturité. Il y a un temps où on est suffisamment mature pour encaisser, accepter et rentrer dans les plans que Dieu a pour nous. Il y a un verset, moi, qui a changé ma vie dans le livre de Galates, au chapitre 4. Au verset 1, il nous est dit ceci. Écoutez bien, c'est un peu bizarre, mais il nous est dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. L'heure de Dieu, c'est l'heure de la maturité. Et il a fixé un temps pour que nous soyons réellement maîtres de tout. Et ce temps, c'est le temps de ta maturité. Le temps où tu ne seras plus un enfant et tu pourras gérer les richesses et l'héritage que Dieu a préparé pour toi. Parce que le problème, c'est que si on rentre dans les plans et les projets et les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance sans être mature, alors ça va capoter. Et la maturité, comme je le disais tout à l'heure, ça correspond à une saison de notre vie. Ça ne correspond pas à une date au jour près. Là, il n'y a que dans la loi que la maturité est associée à un âge. Vous savez, ça c'est aussi c'est quelque chose de notre société. On dit à 18 ans, tu es suffisamment mature pour prendre tes décisions, pour conduire. À 16 ans, tu es suffisamment mature pour boire de la bière, par exemple. Là, c'est associé à un âge. Mais dans la Bible, ce n'est pas ça. Ce n'est pas associé à un âge, c'est associé à une maturité, un état d'esprit qui est bâti, pas avec le nombre des années de conversion, mais avec la profondeur de notre intimité avec Dieu. Moi, ça m'a toujours insupporté qu'on définisse des gens matures en fonction de leur nombre d'années de conversion. On peut être converti depuis 20 ans et chauffer la chaise de l'église, avoir aucune relation avec Dieu, et avoir quelqu'un qui a été converti il y a un an, qui est en feu pour Dieu et qui connaît plus les profondeurs de Dieu que cette personne-là. Ce n'est pas lié à un âge, ce n'est pas lié à un nombre d'années, c'est lié à la maturité, à la profondeur de notre relation avec Jésus-Christ. Et on doit être vigilant à ne jamais exclure Dieu de nos vies ou de certains domaines simplement parce qu'on n'a pas ce que nous voulons quand on le veut. Et franchement, si on est honnête, on le fait quand même souvent. On aimerait des choses, on aimerait que les choses changent, on aimerait que les situations changent, on aimerait posséder telle chose, on aimerait rentrer dans telle chose. Mais qu'est-ce que Dieu en dit ? Parce que ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que lui veut. Et ne disons pas, j'ai assez entendu maintenant, stop, j'en ai marre et je vais rentrer dedans. Parce que l'attitude avec laquelle nous attendons le temps de Dieu détermine également aussi l'issue. Vous savez, tout à l'heure, Jonathan, tu parlais des locaux de l'église. Nous, à l'église, ça fait maintenant depuis 4 ans qu'on cherche des locaux. 4 ans. Je pense que c'est une bonne chose, que c'est la suite logique. L'église, elle grandit, on a besoin de locaux. Et pour autant, pendant ces 3 années, Dieu nous a fait passer par des étapes qu'on ne comprend pas, mais dans laquelle Dieu nous a parlé, il nous a interrogé aussi sur les choses de nos cœurs, sur qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce que lui veut ? Comment nous, on voit les choses, mais comment lui voit les choses ? Et en fait, des fois, il y a même des bonnes choses qu'on attend, qui sont voulues de Dieu, qui sont bonnes. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu en dit ? Qu'est-ce que Dieu dit de tout cela ? Quelle est l'attitude de notre cœur vis-à-vis de la bonne chose que Dieu veut donner ? Et comment on désire cette chose ? Comment est-ce qu'on recherche cette chose ? Comment on cherche à connaître la volonté de Dieu dans ces bons projets qu'il a pour nous ? Parce que parfois, la manière dont on attend, l'attitude avec laquelle on attend, va déterminer l'issue. Et si on attend avec une attitude rebelle, en boudant, en réclamant la chose sans même prendre le temps de savoir ce que Dieu en pense ou pourquoi la chose n'arrive pas, quelle latitude peut-il avoir pour communiquer avec nous sur ces sujets ? Si on boude, si on n'est pas content, et si on... Oh là là, Seigneur, j'en ai marre, j'ai assez attendu. Vous savez, on ne peut pas dire « Seigneur, moi je vais te suivre jusque-là, puis après là, stop, j'arrête. » Vous savez qui c'est qui avait ça ? Il nous a dit qu'il y avait des disciples qui suivaient Jésus, les 70 disciples. Et un jour, Jésus lui a dit un truc qui ne leur a pas plu. Ils ont dit « Mais Jésus... cette parole, elle est trop dure. Qui peut l'écouter ? Nous, on ne veut pas l'écouter. Au revoir. » Et ils sont rentrés chez eux. Parce qu'en fait, ils étaient prêts à suivre Jésus jusqu'à un certain point. Et passé ce point, ils disaient « Non, c'est terminé. » Et parfois, dans notre attente des choses que Dieu a pour nous, on aimerait ces choses. Et parce qu'elles ne viennent pas, je veux me mettre en couple. Je veux me mettre avec telle personne. Je veux avoir tel travail. J'aimerais avoir tel revenu. J'aimerais qu'on me soutienne. J'aimerais rentrer dans le ministère. Et bien, en fait, on passe à côté. Parce que l'attitude avec laquelle on demande n'est pas juste. Vous savez, j'aimerais rappeler une chose de base. C'est qu'il ne faut jamais qu'on oublie qu'on a un Dieu qui est bon. Dieu, c'est notre Père. Et c'est un bon Père et il nous aime. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'il veut le meilleur pour nous. Et qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'écoute. Il sait ce qu'il y a de bon pour nous et il veut ce bon pour nous. Et lui seul sait quand on est prêt pour certaines saisons. Lui seul sait quand on est apte à gérer certaines bénédictions et des positions de responsabilité dans notre vie. Lui seul sait et connaît les dangers auxquels nous faisons face et connaît là où nous en sommes, et là où nous sommes forts, et là où nous sommes faibles. Et vous savez, je crois que bien souvent, le Seigneur, il dit « Pas maintenant. Pas tout de suite. Pas maintenant. » Parce qu'il voit certains domaines de notre vie où posséder la chose que nous voulons serait un désastre. Parce que peut-être l'orgueil nous détruirait. Ou la jalousie. Ou des problèmes de caractère non réglés qui seraient destructeurs pour nous, puis aussi pour tous les gens qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nous. Mais le problème, c'est qu'on est tellement focalisé des fois sur la chose qu'on veut et pour laquelle on attend, quand on oublie des fois la condition même de notre cœur. Si on en oublie même, est-ce que vraiment je suis apte à pouvoir gérer tout ça? Mais sachez une chose, il n'y a aucun moyen d'avoir la vraie paix, le vrai bonheur et une vraie joie en dehors de la volonté de Dieu pour notre vie. Et à l'écho de tout cela, la question que je nous pose, c'est quel est l'état de nos vies? Quel est l'état de nos cœurs? Est-ce qu'on marche du mieux possible dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'on marche du mieux possible dans le temps de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous voulez, que vous vouliez, que vous rêvez et que Dieu n'a pas accompli? Est-ce que vous avez déjà posé la question, est-ce qu'il y a une raison à cela? Pourquoi est-ce que ces choses, elles ne sont pas arrivées? Est-ce qu'on n'a pas permis à Dieu de pourvoir comme lui l'a voulu? Est-ce qu'on a précipité les choses? Parce que Dieu, il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Et ce meilleur, il ne vient pas toujours rapidement, mais il vient. Il vient. Et j'aimerais terminer sur une dernière notion. C'est une promesse incroyable pour ceux et celles qui s'attachent et qui attendent le temps de Dieu avec patience. Il nous est dit dans Ésaïe 64, verset 3, « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. » Et ce verset puissant et merveilleux, il nous montre que Dieu, il agit en faveur de ceux qui savent attendre. Et même l'attendre lui, attendre ce que lui a prévu. Et si on l'attend lui, qu'on reconnaît sa seigneurie, qu'on cherche ses conseils, qu'on cherche sa direction, le Seigneur, il nous atteste, il atteste qu'il agit en notre faveur. Pour ceux qui l'attendent avec patience. Et j'aimerais rappeler une chose extrêmement importante, c'est que, et vraiment que ça puisse s'imprimer dans nos cœurs, c'est qu'on ne peut pas perdre ce que Dieu a préparé pour nous lorsqu'il nous dit d'attendre. On ne peut pas le perdre. Si Dieu a prévu quelque chose pour vous et qu'il vous dit d'attendre pour une raison que lui a décidée, vous ne pourrez pas perdre la chose pour laquelle il vous dit d'attendre. Parfois, on se précipite, on achète tel bien immobilier, on s'engage dans tel ministère pour Dieu, on répond à telle offre d'emploi, on se marie trop tôt parce qu'en fait, on a peur de perdre la personne. Mais écoutez, si cette personne, cette maison, ce travail n'est pas de Dieu, alors vous feriez mieux de le perdre. Parce qu'à la fin de la journée, c'est les plans de Dieu qui s'accomplissent. Les hommes, on fait tous nos plans, nos projets, et des fois, parce qu'on veut tellement la chose, on a peur de la perdre, on précipite la chose. Mais si ce n'est pas de Dieu, mais qu'on le perde, parce que ça veut dire que ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon pour nous, ce ne sera pas un succès. On ne va pas rentrer dans ce que Dieu a prévu. Mais si c'est ce que Dieu a prévu pour notre vie, on ne peut pas le perdre. S'il nous dit d'attendre pour la chose que lui a prévue, on ne peut pas le perdre. Qui c'est qui va empêcher Dieu de faire ce qu'il a envie de faire avec nos vies? S'il nous dit d'attendre parce qu'il voit que nos caractères ont besoin d'être transformés, on a besoin d'être guéri de certaines blessures, on a besoin de rentrer dans certaines saisons de nos vies, c'est parce qu'il y a une raison. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et s'il nous dit d'attendre, la chose, elle s'accomplira parce que les plans de l'Éternel, ils s'accomplissent. Et on n'a pas à nous inquiéter de perdre ce que Dieu a pour nous. Parce que s'il a décidé que c'est pour nous, alors on possédera cette chose. Si on lui obéit, si on marche dans son timing et si on marche dans ses voies. Et quand le temps viendra, eh bien vous aurez cette chose. Mais ça, mes amis, ça ne peut pas arriver dans une vie où on se lève le matin, on trace dans nos agendas sans penser à lui et sans lui poser de questions jusqu'au premier problème qui surviendra et qui nécessitera son assistance. On ne peut pas. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste devant le Seigneur. De dire, je fais ma vie quand j'ai besoin de toi, je fais appel à toi, mais vraiment, Seigneur, conduis toute chose, vraiment, hein, conduis toute chose. Hein. Alors qu'on ne va même pas chercher son cœur, on ne va même pas chercher sa volonté, on ne va même pas chercher à entendre ce que lui a prévu. On doit marcher dans son timing, selon son cœur, selon les projets de son cœur. Une fois qu'on sera adapté à l'heure de Dieu, alors notre vie chrétienne, moi j'en suis convaincu, elle va prendre une toute autre tournure. Parce qu'on pourra vraiment rentrer dans ce que Dieu a prévu et dans son timing. Moi, je crois qu'il y a plein de fois où on est en avance sur Dieu, où on est en retard sur Dieu. Vous savez qu'il y a des fenêtres que Dieu parfois ouvre qui sont un timing précis. Vous savez, moi, je ne veux pas dire d'hérésie, ça n'engage que moi, mais je suis assez convaincu qu'il y a des fois où on loupe des rendez-vous de Dieu et quand on les loupe, c'est loupé, c'est fini, c'est foutu. Et puis, il y a des fois où Dieu, dans sa grâce, va les faire revenir. Vous savez, j'ai un exemple de ça par Jérusalem. Il nous a dit que Jésus, il a pleuré sur Jérusalem. Il dit, mais tu n'as pas connu le temps auquel tu as été visité. Vous savez que Israël, les Juifs, aujourd'hui, sont encore dans les conséquences du rendez-vous loupé qu'ils ont eu il y a 2000 ans. Donc, on peut louper vraiment un rendez-vous. Il y a des conséquences de cela. Maintenant, il y a la grâce de Dieu, elle est là, mais il y a certains points, si on les loupe, on les loupe. mais il y a aussi la grâce de Dieu qui vient et qui réouvre des portes pour certaines choses. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à l'écoute. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre notre vie avec notre Google Agenda aujourd'hui. J'ai ça. Le soir arrive, Seigneur, je prie, bénis les journées de demain, et le lendemain, c'est rebelote. On a besoin de dire, mais Seigneur, aujourd'hui, on est dimanche. J'en suis où dans ton plan dans ma vie? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rentrer dans ce plan plus large que je ne comprends pas, que je ne vois pas, que je n'arrive pas à réaliser, mais que toi, tu as forgé avant la fondation du monde pour ma vie? Où est-ce que j'en suis dans tout cela? Montre-moi ton cœur, révèle-moi ton cœur, montre-moi les rêves qu'il y a dans ton cœur. Vous savez qu'il y a... Moi, ça m'a toujours frappé, mais les rêves de Dieu, ils sont plus grands que nous. Ils sont tellement plus grands que même... Ils sont même multigénérationnels. Repensez à Abraham. Repensez à ces hommes que Dieu appelait, où son plan était plus grand que ces hommes-là. Il est plus grand que nos capacités, il est plus grand que tout. Et Dieu, il a des plans et des projets. Il faut qu'on réalise dans quoi on s'inscrit. Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que peut-être vous n'êtes pas rentré dans cela? Est-ce que la chose pour laquelle vous soupirez, vous attendez, est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est en adéquation avec ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Et ça, c'est vraiment des questions qu'il nous faut nous poser pour être dans l'heure de Dieu, en adéquation avec Dieu et marcher pas à pas avec lui, en prenant le temps de rendre gloire à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, pas notre temps, son temps. Et à l'écho de tout cela, et je vais terminer là-dessus. Moi, j'aimerais vous inviter peut-être à fermer les yeux maintenant, là où vous êtes. Et à prendre une position, à prendre une décision pour votre vie. Parce que vous savez, les messages, on entend plein de messages dimanche après dimanche. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne des positions. Parce que toute connaissance qui s'ensuit d'aucune mise en pratique, ça reste une connaissance qui est stérile. Ça ne sert à rien. On a besoin de rentrer, de prendre des positions devant le Seigneur. Et moi, j'aimerais... peut-être vous inviter à fermer les yeux. Et je vais prier pour certaines choses ce matin que le Seigneur m'a montrées. Et si vous sentez concerné par les choses dont je vais parler, moi j'aimerais vous inviter à vous lever et dire, Seigneur, viens m'en secours. Viens m'aider. Vous savez pourquoi je vous demande de vous lever? Parce que toute personne que Jésus a appelée, il les a toujours appelées publiquement. Il les appelait publiquement en disant, maintenant, vous allez prendre position sans honte pour votre vie et vous allez dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'aide. Vous le faites pour vous, vous prenez position pour vous, vous prenez position devant le monde spirituel, vous prenez position devant les hommes en disant, maintenant, je veux que ça change. Je ne veux plus rester comme je vis, je ne veux plus rester ainsi parce que je crois qu'il y a plus. Je crois que tu as quelque chose de particulier pour moi. Et on va prier ensemble pour ces différentes choses. Donc, si vous sentez que ça vous parle, ce que je vous dis, levez-vous. Et on va prier ensemble. Regardez pas ce qui se passe à droite, à gauche, entre vous et Dieu maintenant. Mais si vous vous sentez concerné, levez-vous et dites, c'est comme se lever pour dire comme, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pour certains, il y a des choses que Dieu a déposées sur votre cœur depuis longtemps. Il y a des rêves, il y a des vocations, il y a des dons qui sont là, qui sont peut-être endormis et vous ne comprenez pas pourquoi l'attente elle est si longue. Et même certains d'entre vous, vous avez peut-être même développer un certain ressentiment contre Dieu à cause de cela. Sachez que le Seigneur, il veut ce matin vous dire qu'il sait ce qu'il fait avec vous. Il n'est pas contre vous, mais il est là pour vous préparer. Et si vous vous sentez concerné, j'aimerais vous inviter à vous lever maintenant. Jésus, je l'accueille. Saint-Esprit, que tu viennes montrer ce que tu travailles dans les cœurs. Que tu viennes montrer le travail que tu fais, comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait pour Moïse, comme tu l'as fait pour tellement de personnes, parce que ton heure, Seigneur, c'est l'heure de la maturité. Il a fixé un temps pour que vous puissiez être réellement maître de tout. Ce n'est pas contre vous, c'est que vous puissiez rentrer pleinement et saisir pleinement, tout pleinement ce qu'il a prévu pour votre vie. Seigneur, que tu viennes ôter l'orgueil de nos cœurs de croire qu'on sait mieux que toi. Si ce matin ça vous parle, ça demande pardon, Seigneur. Demandez pardon, dis Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cru que je savais mieux. J'ai cru que je connaissais mieux ton temps. J'ai cru que je connaissais mieux les projets que toi. Seigneur, viens nous montrer l'état de nos cœurs. Viens nous montrer le travail que tu as commencé en nous. Viens nous montrer comment cette œuvre est bonne parce que tu nous prépares pour plus. Seigneur, je te prie que tu viennes nous aider à respecter ton temps, en attendant avec la bonne attitude, sans s'endormir. mais en attendant avec patience que tu finisses ton œuvre dans nos cœurs. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez plus de rêve. Vous avez arrêté de croire aux rêves de Dieu pour votre vie parce que, en fait, on vous a arrêté dans votre fougue. On vous a dit « calme-toi, reste assis, reste tranquille ». Ou on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'aviez pas assez les dons. Ou peut-être qu'on a prononcé des paroles tellement dures à votre rencontre que ça vous a comme cassé, ça vous a anéanti d'une manière que, depuis, vous n'osez même plus vous lever. Peut-être aussi, il y en a que vous êtes levé, il n'y a pas eu de résultat à escompté. Vous avez œuvré, vous avez donné corps et âme pour le Seigneur et il n'y a pas eu de résultat. Si vous vous sentez concerné, moi j'aimerais vous inviter à vous lever. Jésus. Seigneur, merci parce que tes plans, tes projets sont prêts à propos de nous. Seigneur, on veut prendre autorité dans le nom de Jésus quand toutes les paroles négatives, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles qui ont cassé des personnes dans leur ministère, dans leur service pour toi. Seigneur, que tu viennes vraiment restaurer les cœurs. Tu vois les blessures, Seigneur. Tu vois combien on peut être tellement mauvais parfois les uns avec les autres. Des fois par jalousie, des fois par envie. Mais je te prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes vraiment poser ta main sur les cœurs et tu viennes guérir les cœurs de ceux qui en ont besoin. J'aimerais vous dire aussi pour ceux qui ont été dans l'attente d'un résultat qui n'est pas venu. Vous savez, ce que Dieu nous appelle, ce n'est pas à produire quelque chose. Ça, c'est le monde. Le monde, il est focalisé sur le résultat. Le Seigneur, il n'est pas du tout focalisé sur le résultat. Il est focalisé sur l'obéissance. Vous savez, je pense à ce passage dans Ézéchiel. Il nous est dit que Dieu a envoyé Ézéchiel. Il dit, je t'envoie au milieu des scorpions et des serpents. Je t'envoie dans les déserts. Et tu vas aller là-bas et tu vas parler à mon nom. Et qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, ils seront qu'un prophète au milieu d'eux. Le résultat était seulement pour Ézéchiel dans son obéissance à faire ce que Dieu lui demandait. Et s'ils allaient écouter, pas écouter, ce n'était pas son problème. Son succès à lui, c'était d'aller là où Dieu l'a envoyé et faire ce qu'il lui a demandé de faire. Parfois, Dieu nous envoie, il nous demande de faire des choses, il n'y a pas le résultat. Ce n'est pas votre problème, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de Dieu. Notre seul problème, c'est d'être dans l'obéissance de Jésus-Christ. Et la dernière chose, j'aimerais prier peut-être pour ceux qui ont précipité le temps de Dieu. Peut-être certains aujourd'hui, vous êtes déjà en train d'affronter les conséquences de bêtises que vous avez faites pour avoir précipité ce que Dieu n'avait pas, pour lequel Dieu n'avait pas donné son aval. Peut-être certains, vous êtes en train de précipiter quelque chose que Dieu n'a pas donné son aval. Et vraiment, Saint-Esprit, je te prie que tu le montres maintenant dans nos cœurs. Tu fasses remonter les choses à la surface et que tu nous montres ces choses qui ne sont pas justes dans nos vies. Ces choses que l'on fait et qui ne sont pas de toi et on dit mais c'est de toi, c'est de toi, c'est de toi, alors que ce n'est pas de toi. Seigneur, on peut mentir à tout le monde, mais à toi, on ne peut pas te mentir. Je te prie que tu nous montres la condition de nos cœurs ce matin. Que tu nous montres ces zones de nos vies où on accélère les choses, où on précipite ton timing. Et si c'est votre cas ce matin, ou si aujourd'hui vous êtes même dans des conséquences de cela, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y en a qu'une seule à faire, c'est la repentance. C'est de demander pardon à Dieu. Dites, Seigneur, je te demande pardon d'avoir précipité les choses. Je te demande pardon d'avoir tué mes Saül pour entrer comme un imposteur dans tes projets pour ma vie. Je te demande pardon parce que ce n'était pas de toi. Et aujourd'hui, les conséquences qui sont là, tu ne les as jamais voulu pour moi. Et je te demande pardon. Et vous demandez pardon à Dieu. Vous confessez votre faute et vous demandez pardon à Dieu. Et ensuite, une deuxième étape qui est très importante. C'est de prier pour que Dieu vienne vous délier des conséquences de votre désobéissance. Et Seigneur, je te prie que tu le fasses maintenant. Dans le nom de Jésus, on prend autorité maintenant. Que toutes les conséquences, tous les droits qui ont été donnés à l'ennemi, toutes les choses qui s'est saisies pour influencer négativement nos vies face à la désobéissance, tu viennes ôter tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu viennes nous restaurer, tu viennes nous montrer maintenant ton temps, est-ce que toi tu as prévu. Seigneur, on ne veut pas être des imposteurs. Ce qu'on veut, c'est dans ton temps, on t'aime Jésus. Si on est là, c'est parce qu'on t'aime, sinon on ne serait pas là. Et parce qu'on t'aime, on veut marcher dans tes pas, dans ton temps, à ta manière. Et Seigneur, je vais te prier pour chacun d'entre nous maintenant que tu viennes vraiment nous dépouiller de toute cette manière de voir le temps. Viens nous dépouiller de ce rush dans lequel on est constamment plongé, Seigneur, dans ce monde, dans cette société. Viens vraiment nous aider, Seigneur, à utiliser ces 86 400 secondes chaque jour dans ta volonté. Seigneur, ce temps, il n'est même pas à nous. C'est même pas à nous. Il est à toi. C'est toi qui nous le donne. Chaque jour, c'est toi qui nous les donne. L'air qui passe dans nos poumons et qui fait qu'on est en vie maintenant, c'est toi qui nous le donne. Seigneur, nos vies, elles t'appartiennent, elles ne nous appartiennent pas à nous. Et Seigneur, vraiment, on veut être là en disant, me voici, envoie-moi. Montre-moi ton timing, montre-moi ton temps. Dès aujourd'hui, montre-moi ce que tu veux. Où j'en suis dans ton projet, où j'en suis dans tes plans pour ma vie. Montre-moi, Seigneur. Et comme le psalmiste disait, donne-nous la sagesse pour utiliser notre temps de la bonne manière. Parce que nos plus tard, ils peuvent se transformer en trop tard, en un claquement de doigts. Seigneur, ce que tu nous appelles à faire maintenant, nous voulons le faire maintenant. Et Seigneur, si ce n'est pas le temps, nous voulons attendre avec une bonne attitude de cœur, à chercher ta face et ta volonté, parce que tes projets sont plus grands que notre impatience. Tes projets sont plus grands que l'état, j'ai envie de dire, cassé de nos cœurs. Tu vois notre orgueil, tu vois nos conditions de vie, tu vois nos familles, tu vois toutes ces choses qui sont là, Seigneur. Nous te donnons tout et nous disons, avec ce que je suis, fais ce que tu as à faire, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que tu nous donnes à chacun la force nécessaire pour attendre avec patience ton temps et pour ne pas nous précipiter. Merci parce qu'on n'a jamais vu un Dieu comme toi. Jamais on n'a vu un Dieu comme toi qui agit en faveur de ceux qui t'attendent avec patience. Quel réconfort c'est pour nous, Seigneur. Quel réconfort c'est pour nous. Merci parce que tout ce que tu as déclaré sur nos vies, tout ce que tu as prononcé, ça va s'accomplir, Seigneur. Et on veut vraiment s'attacher à cela, cette espérance qui est la nôtre, comme une encre sûre et solide pour notre âme. Seigneur, nous voulons chérir ces choses que tu as prévues pour nous. Et merci parce qu'on n'est pas trop vieux, que ce n'est pas trop tard, qu'on n'est pas assez bien ou pas bien, c'est pas à propos de ça, c'est à propos de ce que toi tu as déclaré sur nos vies. Et ta parole est certaine, Seigneur. Alors nous n'avons pas à avoir peur de perdre tout cela parce que c'est de toi et dans ta volonté. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen.
Merci mon ami, merci les amis, merci. Et je vous prie de prier pour nous, pour moi, mon épouse, pour tout le leadership de l'Église, que nous puissions discerner les temps dans lesquels on vit, discerner la saison dans laquelle Dieu veut nous amener à Connect Grenoble. Amen. Les amis, cette réunion touche à sa fin. Je vous invite juste, alors que vous partez, à ranger les chaises et ne partez pas aussi tout de suite parce que on a un petit apéro dînatoire, quelque chose, une petite agape avec quelques pizzas qui sont juste